Ah, la guerre, pas une raison de se faire mal, mais en même temps, on s'en sort pas. Et ça fera partie.
Accès libre avec Luc Fortin.
Salutations, Luc Fortin, heureux de vous retrouver. Cette fois-ci, pas dans mon salon, mais en studio. On t'expliquera, Martin Forgue. Ouais, j'ai voulu prendre du Uber la semaine passée.
La source, la source de la référence.
Oui, ouais, c'est ça.
Okay.
Aujourd'hui, on va causer LSQ. D'abord, il y a un nouveau programme pour les entreprises. Deuxièmement, il y a un sondage pour essayer de voir les endroits accessibles ou moins accessibles pour les personnes sourdes. Souvent, on parle de personnes en fauteuil roulant, surtout lorsqu'il est question d'accessibilité. Petite jasette avec Emmanuelle Orange-Parent, elle qui est narratrice en vidéo description. Il y a une petite particularité dans la série Rupture qui m'a fait la première fois sursauter. Je me suis dit, on fait une erreur. Puis ensuite, ben non, ils ont continué. C'est sûrement pas une erreur, mais comment ont-ils fait le choix? Je m'expliquerai. Et ben évidemment, Martin est là quand on a besoin d'un soldat, journaliste. Un homme qui est capable de faire la part des choses, qui n'est pas toujours confortable puisqu'il est assis sur la clôture. On fait venir Martin Forgue. Salutations, Jean-Sébastien Laliberté. Comment ça va cette semaine?
Ça va, Luc?
J'ai allongé ma phrase pour que tu puisses savoir qu'il fallait que tu finisses ta gorgée de café, toi qui es à la régie.
Oui, non, c'est la joie que j'avais plus mon casque sur les oreilles. J'ouvre mon micro et du coup, j'entends pas ce que tu me dis. Bonjour, Luc.
Hey, Seigneur. Hey, je suis content de te retrouver, Jean-Sébastien.
Ben, écoute, je suis content d'être encore là cette semaine et que toi aussi tu le sois.
Tout le monde a bien fait ça la semaine passée, même moi au téléphone. Et c'est Jean-Sébastien qui m'a dit « Fortin, on veut pas t'entendre pendant une heure au téléphone. » Il a mis ses pieds, il a mis ses culottes, il a tout mis, puis ça a fait un bon show pareil. Malgré Uber! Martin Fogg, salutations!
Ça va bien, Luc?
Ça va très bien, merci. Et toi, qui es un ex-membre des Forces armées canadiennes, qui est journaliste indépendant. Mmh. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose qui était publié dans le Ricochet, c'est samedi, je pense?
C'était samedi, oui.
Ouais, ouais. Et tu me disais que tu travaillais sur un balado, une série en balado diffusion qui sera disponible sous peu.
Oui,
avant ou après les fêtes?
Avant, en principe.
Right.
C'était supposé être pour le jour du souvenir, mais il y a eu des délais dans la production. Donc, il a fallu s'adapter.
Est-ce que la plateforme Première Plus existe encore?
Oui.
Oui, OK, c'est comme ça qu'ils l'appellent encore. Il me semble que j'entends plus parler de Première Plus.
Ben, c'est parce que c'est comme une intégration, si on veut. Et puis, de toute façon, moi, je reste indépendant, donc eux, ils font leurs affaires un peu comme ils veulent.
Oui, ouais, non, ça, et c'est une très belle plateforme en ce sens.
Ah, ça
donne une très belle visibilité.
Mais c'est parce que le balado, c'est un peu l'avenir de la radio. C'est l'avenir un peu de la radio. Là.
Ouais.
Puis c'est drôle parce qu'en même temps, c'est un retour sur le passé parce que souvent, ça ressemble un peu aux anciens radio-romans, mais avec des... c'est plus sophistiqué un peu.
Ben, ça dépend du type de balado, mais c'est vrai que le balado... nous permet de donner une vie plus longue au contenu parlé. Alors que trop souvent, c'est dit une fois, les gens ont travaillé très fort pour trouver l'information, la partager, puis oups, c'est fini.
Voilà.
Tandis que la toune de Britney, elle va passer tous les 20 minutes pendant 18 ans.
Tout à fait.
Alors que c'est pas nécessairement la chose la plus pertinente à entendre, pas toujours du moins. Aujourd'hui, je voulais te parler parce que on voulait revenir un peu sur la réadaptation qui était proposée ou non proposée par les forces armées à ceux et celles qui travaillent sur le terrain. On entend beaucoup parler de syndrome post-traumatique depuis quelques années. Tu es venu même nous expliquer que toi-même, tu avais subi et tu continuais de vivre malgré ça et tu retrouvais tes repères tranquillement. Mm-hmm. Mais est-ce que, justement, en 2018, on sent de plus en plus d'aide? Il n'y en a sûrement pas suffisamment, mais est-ce qu'au niveau réadaptation, de quel ordre que ce soit, il y a une amélioration?
Je dirais, bon, pour le vivre en temps réel, je dirais que oui, en quelque part, il y a une petite amélioration dans le sens où maintenant, on rend disponible les services de réadaptation justement pour les vétérans, même s'ils ne sont pas encore titulaires d'une pension, qu'ils n'ont pas reçu nécessairement leur indemnité selon le degré et la gravité de leur blessure. Donc, ces services-là, c'est tous les services psychothérapie, physiothérapie, etc., tout ce que le vétéran a besoin. Donc, en attendant le versement de l'indemnité ou de la pension, ben ça dépanne. Ouais. Puis, ça donne aussi accès à ce qu'on appelle l'allocation de perte de revenus, c'est-à-dire que si tu te retrouves sans emploi, tu as droit à 90 % de ton dernier salaire comme militaire.
Maintenant, bon, ça, c'est l'aspect économique, l'aspect physique, l'aspect émotif. Est-ce qu'on est assez rapide à fournir le soutien?
Oui et non. Ça s'explique assez facilement. C'est-à-dire que chez les militaires actifs, il y a tout un système en place. Bien, tout le système de santé de l'armée est encore accessible parce qu'ils sont encore à l'intérieur du système. Et ça, c'est assez rapide, c'est très efficace. Le système de santé de l'armée est aux antipodes complètement du système de santé
public. C'est ça, l'armée a ses hôpitaux, ses spécialistes.
Oui, de plus en plus, justement. Avant, on envoyait beaucoup à l'externe. Maintenant, on se dote de services psychosociaux à l'interne depuis quelques années. Du moins, on a amplifié l'offre. Fait que, ça s'est venu combler certaines lacunes. Mais le problème, c'est quand le militaire quitte les rangs de l'armée, devient, bon, tu sais, évidemment, tout le traitement, toute la prestation des services, ça dépend du ministère des anciens combattants. Et là, ça devient compliqué parce que souvent, comme dans mon cas personnel, je vais l'évoquer parce que je le connais bien, c'est que j'ai pas eu de diagnostic par rapport au syndrome post-traumatique pendant mon service.
C'est ça, ça a pris un certain temps.
Ça prend beaucoup de conviction, ça prend un dossier étoffé. Donc, ça rend les choses très compliquées et faut comprendre qu'un militaire en détresse n'aura pas nécessairement tous les outils, n'aura pas la motivation, n'aura pas l'énergie. Donc, si la personne est complètement isolée, ce qui est souvent le cas chez les militaires qui vont être en situation de syndrome post-traumatique, c'est-à-dire qu'on s'isole beaucoup, on rejette un peu les liens qu'on a avec les gens, même qu'on aime, les gens qui sont proches, et ça, bien évidemment, ça augure très mal quand vient le temps d'aller chercher de l'aide.
Ouais. Je suis sur le terrain. Malheureusement, je marche sur une mine. À l'époque, je pense qu'on nous envoyait en Allemagne. C'est-tu encore comme ça? C'est-tu là qu'on commence la remise en santé, si on veut?
C'est-à-dire que c'est la base militaire de Ramstein en Allemagne, où ils ont un gros hôpital qui, dans le fond, c'est un hôpital américain. Okay. Donc, géré par l'armée américaine, et c'est là qu'on envoie les cas très graves de blessures. Et par après, bon, c'est une étape pour ramener le militaire vers la maison. Mais avant ça, en tout cas, du moins, dans le temps en Afghanistan, je ne sais plus aujourd'hui si c'est le cas, parce que le Canada n'est plus très présent. La première étape où on stabilisait le militaire avant de l'envoyer en Allemagne, il y avait un hôpital quand même très fourni sur la base de Kandahar. Et de toute façon, le processus commence sur le terrain avec le combat medic, là, pour prendre une expression anglophone, qui stabilise déjà le blessé et par la suite acheminé en hélicoptère. Et tout le processus, pour l'avoir vu, c'est extrêmement efficace. Peut-être qu'Urgence Santé pourrait s'en inspirer.
Oui. Maintenant, lorsqu'on arrive au Québec... Est-ce que c'est long? Est-ce qu'il doit y avoir des évaluations et tout avant qu'on puisse commencer à avoir un physiothérapeute, commencer à avoir un programme d'exercice pour sa réadaptation?
Encore une fois, c'est, tout dépend de est-ce que tu es actif ou est-ce que tu es... Vraiment, c'est ça. Ouais. Le grand fossé, c'est vraiment entre les militaires actifs et ceux qui sont partis. Dans le cas, bon, justement, de militaires actifs, comme je disais, tout ça va se faire tout seul, tout ça va se faire à l'intérieur même de la machine bureaucratique militaire. Plusieurs années plus tard, si tu n'as pas eu de problème dans l'armée, ça vient plus tard, ben là, si tu n'as jamais eu de diagnostic, si tu n'as jamais eu de traitement pour ça, quand tu étais dans les rangs, là, ça devient compliqué. Et dans les cas extrêmes, il y a quelques années, il y a environ 4 ans et demi, il y a eu une vague de suicides chez les militaires qui a fait la manchette. Mm-hmm. Et c'était tous des militaires actifs. Moi, la question que je me pose dans ce temps-là, c'est Qu'est-ce qu'il y en est de ceux qui se, ou celles, évidemment, qui se suicident après qu'ils soient partis, parce que c'est pas, que tu sois vétéran ou pas, c'est pas une donnée qui est recueillie.
On n'entend pas parler de ces gens-là.
Ben absolument pas. Ouais. C'est pas une donnée qui est recueillie par, que ce soit par la, la police, que ce soit par le coroner. Donc, on sait jamais. On sait pas combien de vétérans qui ont quitté l'armée se suicident.
Il y a de plus en plus de lignes spécialisées pour venir en aide à ceux et celles qui ont besoin de parler, que ce soit tel jeune, que ce soit gay, écoute. Est-ce que l'armée canadienne ou peut-être un particulier a mis sur pied un système du genre?
Ben, il y a une ligne, il y a un service d'aide ancien combattant Canada, c'est soit pour les vétérans en tant que tels ou leurs proches, leurs familles. S'ils ont besoin d'une assistance immédiate, ils peuvent appeler. Je vais donner le numéro de téléphone, c'est le 1-800-268-7708. C'est si jamais vous, à la maison, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a fait l'armée, qui a des problèmes, vous appelez là et là, on va vous fournir une assistance immédiate. Mais quand on appelle là, c'est vraiment parce que la situation est critique. Là.
Oui, OK. Et... On bouge. C'est autant là, les gens du Manitoba que les gens... Ça va quand même vite. Il n'y a pas de provinces qui sont plus avantagées ou de discipline dans l'armée qui vont avoir des services plus rapidement.
En principe,
on est tous égaux.
Supposé.
OK, OK. Si tu avais à améliorer, je pense... Ce que j'entends, c'est améliorer le sort de ceux et celles qui ne sont plus actifs. Qu'est-ce que tu proposerais? Qu'est-ce qui pourrait être fait, peut-être?
Il y a cet aspect-là qui est beaucoup plus... Donc, je vais commencer par le plus simple. Pour ce qui est de l'armée en tant que telle, quand tu es en le système, je pense que ça s'améliore depuis quelques années, mais il y a tout un changement de culture qu'il faut continuer à opérer par rapport justement au fait qu'une blessure, puis une blessure de santé mentale, tout ça, c'est pas une honte.
Ouais.
Quand il y a encore une culture très, très machiste dans l'armée, ça va avec le territoire, comme on dit. Mais donc, il y a cette perception-là souvent que si t'es blessé, si t'es malade, c'est un signe de faiblesse, tu le caches, ça pourrait nuire à ta carrière, etc. Donc, je pense qu'il y a eu des progrès, mais il faut continuer à travailler dans ce sens-là. De l'autre côté, les militaires qui sont sortis, je vais donner la réponse facile, bonifier l'offre de service.
Ouais, ouais.
Surtout que les conservateurs ont complètement éventré le ministère des Anciens Combattants pendant leur règne. Surtout dans, mettons, disons, entre 2013-2015, c'était épouvantable. Mais l'autre, c'est pour les proches, il faut être vigilant. Il faut reconnaître les signes de détresse chez un militaire qui pourrait commencer à avoir des problèmes de santé mentale. Parce que, et je l'ai fait moi-même, il y a beaucoup de déni qui s'opère. Énormément, parce que c'est plus facile de nier une blessure mentale qu'une blessure physique. Et si tu te casses une jambe, t'es enflé, ça fait mal.
Ouais.
Si tu tombes en dépression, si t'es post-traumatique, c'est plus facile de le cacher.
Oui, c'est sûr, non, on s'en aperçoit même pas.
Souvent, on s'en aperçoit même pas soi-même. Ouais. Donc, être très vigilant devant vos proches. Sachez reconnaître les signes. Là, je m'embarquerai pas là-dedans parce que je ne suis pas moi-même psychologue, mais faut se renseigner, faut vraiment faire ça. Faut couvrir les angles morts que le système ne couvre pas. Mais par contre, éventuellement, il va falloir que le système se bonifie. Parce que, je veux dire, l'Afghanistan commence loin derrière nous, mais il y a des milliers de jeunes là, qui sont plus dans l'armée, qui vont commencer à avoir des problèmes. Donc, toute une nouvelle génération, finalement, là, qui va avoir besoin de soins. Donc, il faut absolument bonifier cette offre-là.
En terminant, j'ai l'impression que le Canada va moins se diriger vers des missions, disons, d'attaque, des missions guerrières. Est-ce qu'il y a pas un danger que justement on mette pas plus d'argent dans la réhabilitation parce qu'on met moins d'argent dans ce qui cause les blessures?
Je dirais que non, parce que de toute façon, d'après pour moi, j'ai l'impression que la demande va augmenter pour les raisons que j'ai évoquées à cause de ça. Et même des missions dites de maintien de la paix, pensons à la Bosnie. Dans les années 90, les gars venaient complètement dévastés. Et là, il y a une mission au Mali présentement. Une mission qui, malgré... Bon, c'est réduit tout ça, mais il y a quand même des dangers. Les militaires vont être exposés à la misère, vont être exposés à certaines... Ils vont accumuler du matériel à possiblement avoir des problèmes. Donc, ça se poursuit toujours. Peu importe la mission, on va toujours avoir besoin d'une aide... au retour. Et pour citer le sénateur Bernie Sanders, il avait déjà dit au Sénat américain, si on n'a pas les moyens de s'occuper de nos troupes à leur retour, ben on n'a pas les moyens de les envoyer.
Ouais, il a tout à fait raison. Merci beaucoup, Martin Ford.
Fait plaisir, Luc. Merci beaucoup
fais
pour l'invitation.
Signe lorsque le balado entre en onde.
Tout à fait.
Et malheureusement, c'est bête, j'oublie le titre, mais allez sur la page de Dimanche Magazine. Non, c'est pas vrai, c'était une émission spéciale hier. Donc, allez sur le site web de Radio-Canada. Il y avait un fabuleux documentaire sur des soldats qui, 25 ans plus tard, étaient retournés en Bosnie l'été passé. Et les micros les ont suivis. C'était
faire la paix avec la guerre.
Oui, bravo, voilà. Bravo, Martin. Faire la paix avec la guerre, trouver ça, écouter ça. C'est vraiment humain, c'est bien fait, c'est pas larmoyant, c'est très, très bon. Merci, M. Forgue. On sort toujours notre petit Pat Metheny lorsque Martin... Une fois par deux ans, on sort cette toune-là, puis on l'écoutera pas au complet parce que nous, on veut causer d'un nouveau sondage qui parle de ce qui est et ce qui n'est pas accessible pour les personnes sourdes. Salut, Kim Auclair.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Oui, merci beaucoup. Je lis que vous êtes présidente de...
Quoi, Niviti.
Qu'est-ce que c'est, ça?
En fait, Niviti, ça fait de la création de contenu qui vise à développer des compétences entrepreneuriales des gens. Mais c'est surtout de la rédaction d'articles.
Okay.
Mais je suis aussi agente de communication à l'ABDA, l'Association des personnes avec une déficience de l'audition.
C'était la deuxième chose que vous étiez sur ma feuille également. On parle avec vous aujourd'hui suite à la publication d'un sondage et une petite plateforme, une nouvelle plateforme, Où sortir sans limite. Comment est venue l'idée de faire ce sondage d'abord?
Oui, en fait, moi, je suis présentement... En fait, j'ai une sourdité de sévère à profond aux deux oreilles. Donc, j'entends pas de l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite avec mon appareil auditif. Et j'ai récemment fait une démarche pour avoir un implant cochléaire. Alors, j'ai ralenti Niviti, si on peut dire, et j'ai accepté le mandat de à l'ABDA. Donc, un projet très spécifique de Où sortir sans limite qui visait à tester les lieux accessibles pour les personnes malentendantes. Donc, de prendre conscience des difficultés que les personnes malentendantes avaient comme moi en public. Et ça, c'est une démarche personnelle d'acceptation de ma sourdité, mais aussi de vraiment de prise de conscience. Alors, quand je suis arrivée à l'ABDA pour ce projet-là, moi, c'est important de vraiment mieux connaître le terrain.
Vous êtes dans la région de la capitale nationale?
Oui, c'est ça. Et j'ai vraiment tapé le terrain le plus possible. Donc, au lieu de commencer tout de suite le projet, j'ai dit à l'ABDA, moi, je suis en période d'acceptation de ma sourdité. Mes défis, je les connais, mais j'ai toujours été dans le milieu avec les personnes entendantes.
Oui.
Donc, j'ai pas eu beaucoup de connaissances avec les personnes malentendantes, les personnes implantées, tout ça. Donc, de rencontrer tout ce beau monde-là, de leur poser des questions en lien avec leurs défis pour mieux faire le projet, c'est là que ça m'est venu l'idée de ce sondage-là qui a été très révélateur et qui représente très bien la réalité de plusieurs personnes malentendantes.
Et ce sondage-là a mené à la mise sur pied de Sortir sans limite?
Oui. Donc, ça nous a aidé à définir les lieux les moins accessibles pour les personnes malentendantes, en fait. Donc, Où sortir sans limite, c'est quoi? Si on va sur oùsortirsanslimite.com, c'est un site qui est en développement, mais ça permet aux personnes malentendantes de trouver les lieux comme des restaurants, les salles de cinéma, les salles de spectacle, les services de santé. Ça, c'est les principaux lieux où il y a beaucoup de défis pour les personnes malentendantes. Alors, on montre, lorsqu'ils sont testés par ces personnes-là, on les affiche et ça permet de voir aux personnes malentendantes les lieux qui sont un petit peu plus sensibilisés.
Ouais.
Donc, c'est à la fois une campagne pour sensibiliser les entreprises parce qu'on a un handicap qui est invisible et c'est pas parce qu'on parle, qu'on signe pas, qu'on n'a pas nécessairement des besoins, qu'on n'a pas nécessairement de besoins pour mieux être intégré.
Je suis curieux, Kim Auclair. J'imagine qu'il y a des salles de spectacle qui sont, disons, mieux outillées que d'autres parce que c'est vrai que, bon, quand il fait noir, c'est pas toujours évident. Même chose, bon, les services de santé, souvent on nous dit Luc Fortin, salle 3, mais si on ne l'entend pas, c'est pas simple. Alors, donnez-moi des exemples de lieux qui se sont adaptés.
Comment? Les lieux qui sont adaptés, dans le fond, vous voulez savoir?
Bon, des exemples, disons, positifs.
Oui, en fait, on a évalué quelques restaurants, par exemple, les services de santé comme le centre dentaire Pile qui est juste à côté de l'entreprise Signe Espoir. Donc, ils sont sensibilisés à une clientèle qui est malentendante, qui est sourde. Donc, ils vont écrire par courriel à ces gens-là. Ils vont accepter de communiquer par courriel. Donc, ça, c'est tout un petit changement. Quand ils parlent aux gens, ils vont enlever leur masque. Alors, moi, j'étais dans un autre centre dentaire et je l'avais demandé d'enlever leur masque quand ils me parlaient parce que je lis beaucoup sur les lettres. Ils le font pas. Ils veulent pas communiquer par courriel. Donc, c'est comme des petits changements. C'est des petites actions qui coûtent pas cher. Les restaurants, bien, ça va être, par exemple, le manoir du spaghetti. Il va avoir une ambiance où que les tables vont être disposées dans des endroits plus tranquilles. Donc, ça va être vraiment les serveurs qui vont être sympathiques et adaptés à ce qu'on va leur dire. Il y a des personnes malentendantes à la table. Donc, c'est des petites actions comme ça qui font qu'un lieu est accessible.
Est-ce que Sortir sans limite couvre uniquement la région de Québec ou on s'intéresse à la province?
Non, dans l'idéal, on veut vraiment que Sortir sans limite soit partout au Québec. Donc, on commence localement, on a pris des ententes. Actuellement, on en est à faire la liste. On a pris des ententes avec des acteurs. On commence à remplir le site web. Et le but, c'est vraiment d'aller partout au Québec. Là. Donc, ça va être vraiment pour sensibiliser les entreprises. Donc, pour l'instant, d'ici la fin de l'année, on conclut les ententes avec les partenaires et on a continué d'ajouter des lieux qui sont surtout principalement au Québec.
J'imagine que vous avez pensé tant à ceux qui ont des implants que ceux qui utilisent surtout la LSQ?
Oui. On va faire connaître ce projet-là le plus possible. Les acteurs vont aussi faire connaître ce projet-là dans leur entourage.
Mais je pense même au niveau de l'accessibilité. Bon, c'est une chose pour qu'un dentiste retire son masque, mais si je ne lis pas sur les lèvres, je ne suis pas plus avancé.
Oui.
Est-ce qu'on va aussi me dire il y a d'autres dentistes ou de centres dentaires qui, eux, utilisent le LSQ ou bien vont vous envoyer des messages textes alors que vous êtes sur la chaise?
Oui.
Okay.
C'est des petites actions comme ça. Mais savais-tu que la plupart des personnes malentendantes ne le disent pas? Donc, c'est vraiment le sondage qui est ce qui a révélé, c'est qu'une personne comme moi veut juste être normale. Donc, on est intégré dans le monde des entendants, on veut être normal et on ne le dit pas parce qu'on est gêné, parce qu'on a subi de l'intimidation, on a subi des remarques.
Okay.
Alors, ce sondage-là a été très révélateur. Donc, oui, il faut faire un effort nous-mêmes en tant que personnes malentendantes, mais les entreprises doivent vraiment être plus sensibilisées.
Ce qui est intéressant dans un projet comme celui-là, c'est que c'est un projet qui est toujours vivant. Exemple, si le propriétaire d'un centre dentaire change, peut-être que le prochain ne sera pas aussi ouvert. Et l'inverse est vrai aussi.
Oui.
Il y a des gens qui vont s'adapter.
Mais on ne parle pas juste des centres dentaires,
non, je sais
les
bien.
Services sociaux. Puis tous les services sociaux, les salles d'attente, c'est épouvantable aussi.
Ouais.
Donc, les médecins qui veulent pas prendre la peine de se lever puis d'aller chercher la personne sur place au lieu de dire son nom à ceux qui disent leur nom à l'intercom, puis tout ça, pour qu'on prenne le temps de dire « Dites pas mon nom à l'intercom, venez me chercher. » Donc, le sondage a été, c'est 128 personnes qui ont répondu et 128 personnes qui ont chialé aussi.
Ouais.
Donc, c'est vraiment une mine d'or.
La semaine dernière...
Ça a été très révélateur.
La semaine dernière, bon, je faisais partie d'une... une des consultations publiques mises de l'avant par la Ville de Montréal à la Maison des Sourds, et plusieurs évoquaient l'idée que les conférences ne sont pas pour nous, on doit être obligé de payer des interprètes, ça coûte non seulement le prix d'entrée, mais en plus le prix d'interprétation. Est-ce qu'il y a des endroits, que ce soit les grands explorateurs ou d'autres, qui offrent des services?
Oui, mais je peux pas me prononcer à propos de ça, mais c'est vrai que c'est toutes les... Moi-même qui viens d'un milieu d'affaires, qui a souvent été assisté à des conférences, donc je m'en suis rendu compte après que c'est beaucoup la débrouillardise des personnes malentendantes qui vont s'arranger, mais effectivement, c'est pas tout le monde qui vont payer pour des traducteurs, pour des interprètes et tout ça, donc je sais pas les lois qui existent par rapport à ça, mais c'est un énorme défi pour plusieurs personnes.
Ben, c'est un peu maudit, parce que moi qui suis aveugle, ça fait longtemps qu'on a réglé au niveau postal le fait que en braille ou la cassette ou le CD, c'est plus lourd, donc ça coûte plus cher. Alors, pour les personnes aveugles, on écrit « matériel pour aveugles » et le gouvernement nous charge pas l'envoi. Donc, vous, c'est juste d'avoir accès au contenu. Ce serait normal que ce soit... Mais ça, je suis certain que vous allez être d'accord avec moi.
Mais oui, je suis d'accord. les personnes malentendantes, c'est des personnes qui sont très débrouillardes. Donc, moi, quand j'entendais pas les conférences, j'utilisais les médias sociaux. Vous allez voir qu'est-ce qu'on disait à propos des conférences, parce qu'on tweet beaucoup qu'est-ce qui est dit dans lors des événements. Puis c'est comme ça que j'utilisais un peu le mode sous-titrage. Mais il y a plein de façons qu'on peut utiliser avec la créativité pour traduire autrement. Puis c'est pas juste ça, ça peut être juste d'installer un système infrarouge ou un système qui permet vraiment aux personnes malentendantes de mieux entendre avec leur appareil, leur son et tout ça.
Ouais.
Donc, différentes choses comme ça d'adaptation.
Kim Auclair, qui est présidente de l'Association des personnes avec une déficience de l'audition. Merci beaucoup. La plateforme s'appelle Sortir sans limite. On vous revient après la pause.
Merci.
Vous écoutez Accès libre.
Avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'est Catherine Bourderon qui est à la recherche d'Accès libre. Mon nom est Luc Fortin. On va dans la deuxième partie de l'émission causer, entre autres, d'un programme de formation en langue des signes québécoise pour les entreprises. Et également, tout le monde en a parlé la semaine passée. On a décidé d'attendre un petit peu pour parler proches aidants avec... Mélanie, un petit peu plus tard. Mais d'abord, Emmanuelle Orange-Parent est avec moi, elle qui est narratrice par excellence en vidéo-description. Bonjour Emmanuelle.
Allô Luc.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, merci beaucoup. J'aime te dire quand tu fais des bons coups, j'aime te dire quand vous faites des petites erreurs, parce que l'émission, après ça, elle va passer comme ça pendant 20 ans. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'écoutais Rupture. Et là, il y a une histoire où, pour ceux qui suivent la série, bon, c'est une avocate en droit de la famille, et il y a un petit garçon de 11 ans qui, en fait, lui ou elle, c'est bien confus, se sent Laurie plutôt que Laurent. Et à un moment donné... Ah oui, hein? Mais c'est bon.
L'inverse.
C'est parfait, tu vois, fait que merci de... Ceci explique cela. Donc, à un moment donné, et là, je suis confus, mais je sais plus si c'est... Elle, mettons, la mère s'assoit à côté de Laurent et Laurent, en tout cas, il y avait un Laurent et un elle.
Oui.
Puis dans d'autres phrases, il y a un Laurie et un il se référant à Laurie. La première fois, je pensais que c'était une erreur. Après ça, j'ai vu que non, c'était un choix. Comment on fait un choix comme celui-là?
en se parlant en groupe.
OK.
Ben, en fait, le choix ultime qui a été fait, c'est d'appeler l'enfant Laurie, qui était son nom sur son baptistère, son nom officiel, son nom légal. Et pour suggérer l'ambiguïté, après ça, on disait « il », pour faire quand on avait à utiliser un pronom. Mais en fait, au début, puis là, je parle au nom de la rédactrice, elle m'expliquait que son premier réflexe, c'était de l'appeler Laurent, parce que l'enfant, lui, se sent Laurent. Okay. En fait, c'est comme un petit garçon qui est né dans un corps de fille. Sauf que le but de la description, c'est de donner l'expérience de l'œuvre, l'expérience du programme de l'émission. Puis le point de vue de l'émission, c'est le point de vue de l'ambiguïté. Fait qu'il y a le point de vue du petit garçon et ou de la petite fille, surtout qu'au début, on ne le sait pas, parce que la première image qu'on a de cet enfant-là, c'est qu'il est devant, en fait, il entre la toilette des garçons puis la toilette des filles, puis il se demande où il va rentrer.
Okay.
Mais toi, en tant que téléspectateur, on ne sait pas encore si c'est un petit garçon qui se sent petite fille, ou si c'est une petite fille qui se sent petit garçon.
Je comprends.
Parce que visuellement, physiquement, il est ambigu.
Mm-hmm.
Donc, on essayait de donner cette ambiguïté-là. Parce qu'en fait, rupture, c'est vraiment le point de vue légal.
Oui.
C'est vraiment qu'est-ce que cette histoire-là va apporter du point de vue légal, du point de vue d'Ariane. Fait qu'il y avait même des personnages qui l'appelaient Laurie, il y avait des personnages qui l'appelaient Laurent, il y avait des personnages qui l'appelaient tantôt Laurie, tantôt Laurent. Fait que nous, il a fallu prendre position du point de vue du scénario. T'sais. Fait que là, aussi du point de vue clarté, si nous-mêmes on se mettait à l'appeler Laurie et Laurent, ben quand est-ce que nous, en tant que descripteurs, on l'appelle Laurie, puis quand est-ce qu'on l'appelle Laurent, ça devenait vraiment une décision quasiment politique ou quasiment ou morale. Fait que là, par souci de clarté, on a choisi de l'appeler Laurie, parce que c'est à la limite même ce que le juge voulait pendant l'émission. Puis ça restait comme constant pour l'auditeur.
Vous voulez pas des punchs, là, vous, là?
Ah, mais je sais pas qu'on est rendu là, dans la...
Je comprends.
Fait qu'on a décidé de l'appeler Laurie.
Ouais.
Et le plus souvent possible, l'enfant.
Oui,
pour
rester
neutre.
Oui, oui.
Et quand il y avait une obligation d'utiliser un pronom, on a choisi d'utiliser « il » pour parler un peu de l'ambiguïté, représenter un peu l'ambiguïté qui reste tout le long du show. Mais en même temps, les dialogues évoquaient vraiment, vraiment bien cette ambiguïté-là aussi.
Te souviens-tu, Emmanuel? Ben, j'imagine que si vous avez été obligé de vous asseoir ensemble, c'est qu'il n'y avait pas de cas type dans une autre série faite soit en Angleterre, aux États-Unis. J'imagine que vous avez cherché.
Ben, c'est pas toujours évident de chercher.
Ouais,
On n'a pas toujours accès à ces choses-là. Puis effectivement, il n'y en a pas des tonnes d'exemples avec personnages qui se sentent pas dans le bon genre. Puis c'est souvent une question, encore une fois, c'est de représenter l'œuvre et le point de vue de l'œuvre. Mmh. Fait que dans un autre contexte scénaristique, on aurait peut-être fait un choix différent. Donc, c'est vraiment une question de jugement. C'est une question de comment on a l'impression que nos choix de description vont quel impact ça va avoir pour la personne qui ne voit pas. Est-ce qu'elle reçoit une expérience qui est similaire à la personne qui voit?
Oui. Donc, dorénavant, je vais attendre 2-3 fois, voir si c'est une erreur ou si vraiment il y a une stratégie avant de dénoncer une pseudo-erreur. Merci beaucoup, Emmanuel. Et on risque de se reparler plus le septembre 2019 approche, plus on va se parler. Évidemment, il y aura de plus en plus d'heures en vidéo description qui seront proposées aux téléspectateurs. J'imagine que de votre côté, déjà, on commence à sentir là, les contrats arriver et...
Ça se ressent tranquillement,
tranquillement,
oui. J'ai l'impression que ça va évoluer plus d'une shot que graduellement.
Ouais.
Mais oui, ça se parle énormément, ça,
en
c'est
tout
certain.
Cas, ceux qui veulent devenir narrateurs, narratrices, pensez-y, parce que effectivement, si toutes les séries arrivent en même temps, Emmanuel ne pourra pas toutes les faire.
C'est sûr.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Emmanuel Orange-Parent, donc travaille avec les Studio Mills, et c'est vraiment un add-on, mais la semaine passée, je me rendais compte, moi j'écoute comme 3-4 séries, et à un moment donné, j'étais plus capable d'entendre la voix d'Emmanuel. Ça faisait 4 heures en ligne qu'elle me parlait parce que j'écoute Rupture, Unité 9, Demain des hommes. J'écoute, c'est-tu les Simone ou trop? C'est les Simone auxquelles t'es et trop, mm-hmm. Tu fais pas, je pense.
Non.
Fait que c'est ça. C'est là que j'ai eu un petit congé. Mais à un moment donné, je me disais, tab, tu sais, on se plaint que Rémi Girard est dans toutes les. Emmanuel est dans toutes les shows. Mais tu le sais très bien que moi, ça me convient tout à fait. On va causer avec Mélanie Perroux, qui est coordonnatrice du regroupement des aidants naturels. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas encore changé de nom? Tiens, ça sera ma première question. Un tout petit peu de Pat Metheny. Elle s'appelle Mélanie Perroux. Elle est coordonnatrice du regroupement des aidants naturels. C'était la semaine nationale des proches aidants. C'était-tu la semaine dernière ou il y a deux semaines? La semaine dernière.
Hein? Oui, la semaine dernière.
Il me semble qu'il y avait des entrevues partout sur le sujet, ce qui est une bonne chose. Mélanie, comment se fait-il que vous êtes encore... Ben, pas que vous êtes encore coordonnatrice, mais vous faites encore partie de l'association qui s'appelle Regroupement des aidants naturels, alors qu'on travaille si fort pour enlever cette appellation.
Il y a deux choses déjà. C'est un peu compliqué de changer les lettres patentes et de faire toutes les modifications avec un organisme communautaire qui n'a pas tant de financement. Donc, on a jugé que ce n'était pas une priorité pour le moment, mais ça revient souvent dans nos discussions. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de proches aidants, mais quand on va sur le terrain, il y a beaucoup de proches aidants qui, eux, veulent garder le terme d'aidant naturel.
Ah oui, okay.
Ils aiment cette appellation-là. Récemment encore, j'en ai un qui m'a interpellé là-dessus. Donc, au final, on se dit que ça permet quand même de les amener à réfléchir à ce rôle-là. Donc, ça peut valoir la peine. Peut-être, éventuellement, on aura les deux à un moment officiellement.
Qui est un proche aidant? Quelles sont les limites? Là, où commence et où termine la définition d'être proche aidant?
Alors, c'est une grande question et sur laquelle on a une réponse, on va dire, partielle, parce que dépendamment des organismes, dépendamment des proches aidants, on ne va pas mettre les mêmes choses. Puis, dépendamment des gouvernements aussi, on ne va pas mettre les mêmes critères. Nous, ce qu'on pense, c'est que être aidant naturel ou être proche aidant, c'est effectivement quelque chose... qui est inhérent à la vie humaine. On est tous à portée à s'entraider.
Bien sûr.
Après, il y a une question de fardeau, même si ce n'est pas toujours le mot adéquat, mais c'est quand on en vient à mettre de côté sa vie à soi pour aider quelqu'un à s'appauvrir sur le court et long terme. Quand on en vient à s'épuiser et à être dans la détresse psychologique, alors là, il y a un problème, là, il y a un besoin de soutien. La difficulté aussi, c'est qu'être aidant naturel ou être proche aidant, souvent, ça va dans la solidarité familiale. Puis nous, ce qu'on pense, c'est que ça devrait être une solidarité sociale, fait qu'il faudrait que ces personnes-là, elles soient soutenues par des services, du soutien régulier, pour pouvoir tenir ce rôle-là qui est important, en fait, et pour elles, parce que ça apporte beaucoup d'être proche aidant, et pour la société et la personne qu'elles aident, bien sûr.
Il y a des semaines nationales depuis quelques années. J'ai l'impression d'entendre à peu près le même discours. Pourtant, il y a des progrès qui se sont réalisés.
Alors, ça avance petit à petit. Je dirais que dans cette dernière année, c'est là où on a eu le plus d'avancées, en fait, que ce soit avec l'ancien gouvernement ou le nouveau. Mais ça a été quand même, c'est des avancées un peu à la marge, j'aurais envie de dire.
Okay.
Il y a eu des améliorations concernant la loi des normes du travail. Les proches aidants sont reconnus dans cette loi, ont droit à 2 journées congés pour proches aidants. Mais par exemple, ces journées-là, elles ne s'additionnent pas avec les congés pour maladie. Ça veut dire qu'il faut choisir. Soit on est proche aidant, soit on est malade, mais on ne peut pas être les deux. Alors qu'on sait que, voilà, on sait qu'être proche aidant, c'est plus de risque d'être malade. Fait que ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a des avancées, mais elles ne sont jamais vraiment parfaitement
arrimées. Oui, puis de toute façon, combien de fois sommes-nous malades lorsqu'on prend une journée de maladie? Hein? Je veux dire, c'est complètement ridicule, j'en reviens pas que ce soit comme ça. Il y a vraiment quelqu'un qui a fait une loi et qui a pensé à ça.
Oui, wow. Oui, effectivement, c'est okay. Pas un « et », c'est un « ou » dans la loi. Fait que nous, on a demandé à ce que ça soit changé, puis ça n'a pas été écouté. Fait que ça a vraiment été, c'est un choix d'avoir fait ces mesures-là. Et là, donc, dans le nouveau gouvernement, là où on ne sait pas encore où on s'en va avec ça, mais pour la première fois, il y a la ministre responsable des aînés et des proches aidants. C'est la première fois qu'on apparaît dans un titre.
Oui, puis bon, c'est quand même une personne qui a fait ses preuves dans le passé. Elle a le cœur à la bonne place à propos de ce dossier-là. Là.
Tout à fait.
On parle de Marguerite Blais. Mis à part les clowns. Je veux dire, le reste est assez bon. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui, disons, là, OK, j'entends mettre des journées, peut-être avec un petit diagnostic, un papier d'un médecin, je peux montrer que j'ai quelqu'un que j'aide et j'ai pris une journée proche aidant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la table qu'on souhaiterait faire valoir?
Très sincèrement, la liste, elle est longue. Si vous avez une heure devant vous, je suis partie. Mais au-delà de ça, actuellement, moi, je dirais le plus gros, c'est qu'actuellement, la proche aidant, c'est un milieu qui est divisé. C'est-à-dire que les proches aidants d'aînés vont avoir des services et du soutien parce qu'il y a la société Appui pour les proches aidants d'aînés qui a été créée. Par contre, maintenant, si on est proche aidant d'un enfant qui a une déficience intellectuelle ou un enfant autiste ou d'un conjoint qui a le cancer, ben là, d'un seul coup, la plupart des mesures de soutien, elles tombent, il n'y a plus rien. Par exemple, l'exemple flagrant, c'est le crédit d'impôt pour les conjoints. Si vous avez un conjoint qui a plus de 70 ans, vous avez le droit au crédit d'impôt. S'il a moins de 70 ans, vous avez le droit à plus rien. Donc, il y a vraiment beaucoup de compartimentation. Et ce que nous, on réclame depuis quand même longtemps et qu'on a déposé sur le papier en mai, c'est une stratégie nationale ou une politique gouvernementale qui va permettre de mettre ensemble tous les défis que vivent les proches aidants sur tous les points et leur apporter des solutions.
Mais en même temps, c'est vrai que ce n'est pas simple, Mélanie, parce que il y a un paquet de raisons pourquoi la personne va être incommodée. Si j'ai un enfant avec un handicap, je risque d'avoir un crédit d'impôt de ce côté-là. Je risque d'avoir des allocations ou des prestations fiscales plus, disons, majorées par rapport à d'autres parents. Donc, j'ai déjà un certain dédommagement. Là, il y a la ministre adjointe Charlebois qui avait autorisé à des parents d'enfants lourdement handicapés c'est à peu près 1 000 $, je pense, par année. Donc, il y a un paquet de petits programmes et c'est un peu normal qu'à un moment donné, tu peux pas avoir, c'est quoi, là, le beurre, l'argent du beurre et la fermière?
Tout à fait, sauf qu'actuellement, on sait qu'il y a moins de 5% des proches aidants qui ont accès aux mesures qui les concernent. Fait que c'est vrai qu'il y a des choses qui existent. Exact. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui existent. Après, est-ce qu'elles sont suffisantes? On peut se poser la question. Mais la difficulté, c'est qu'elles sont très, très morcelées. C'est très difficile de trouver ce à quoi on a droit. Vous faisiez référence à l'allocation pour les enfants lourdement handicapés. Il y a seulement une famille sur deux qui l'a demandé, qui l'a obtenu, parce que les critères sont extrêmement restrictifs. Si un enfant, il est capable de manger, il est pas capable de manger, mais il est capable de se déplacer sur plus de X mètres, alors, poum, on n'a plus le droit à cette allocation-là. Sauf qu'il, du coup, il n'a pas le droit d'être à l'école, il faut revenir à la maison pour le nourrir. Fait qu'il y a tout plein de situations. L'autre situation aussi, c'est quand l'enfant, il devient adulte. Et là, on tombe dans un trou de service monumental.
Est-ce que, en terminant, il y a quand même, justement, peut-être, des fois, tu penses à ta confrérie, et comme il y a tellement de besoins, je présume que si moi, j'ai tel besoin, je tire sur la couverture, il y a peut-être des proches aidants pour d'autres situations qui me regardent de travers parce qu'ils veulent pas que j'enlève tout le budget. Est-ce qu'on se regarde un peu de travers parce qu'on craint pour notre subvention, notre crédit d'impôt?
Je sais pas si les proches aidants entre eux se regardent de travers parce que je pense qu'il y a tellement peu de partout que ils seront tous à revendiquer du global.
Il y en a pas assez pour qu'on protège c'est ce qu'on
ça.
A là.
Mais c'est sûr que ça c'est un problème de compartimenter en fonction de la maladie de la personne qu'on aide. Si on le faisait pour tous les proches aidants, peu importe la maladie, mais plus selon le besoin d'accompagnement nécessaire, on n'aurait pas ce problème-là au final de risquer de tirer la couverte à soi.
Elle est coordonnatrice du regroupement des aidants naturels, Mélanie Perroux. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour Laurie Morel.
Bonjour Monsieur Fortin.
Oh Luc, c'est parfait comme ça. Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Oui, merci. Là, je lis que vous êtes coordonnatrice du programme à la formation.
Oui, de la formation au CQA.
OK, parfait.
Conseil québécois des entreprises adaptées.
Bon, là, aidez-moi à comprendre parce que ce que j'ai lu, c'est que vous offriez un programme de 30 heures de formation pour se familiariser avec la langue des signes du Québec. Ou québécoise. Et en même temps, il y a déjà un certificat à l'UQAM, qui, lui, je pense, c'est 45 heures, quelque chose comme ça. Donc, la différence entre l'un et l'autre...
OK. Bien, il existe déjà plusieurs formations en LSQ, LSQ 1, 2, 3, jusqu'à 5, qui permettent à la personne d'être interprète ou, disons, bilingue. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'était d'offrir un programme de 30 heures, mais... qui a été adapté par rapport aux besoins des gens en entreprise, donc des employeurs, des superviseurs, du personnel d'encadrement en général, finalement, qui ont comme employé un travailleur sourd et qui désirent favoriser la communication avec cette personne-là en apprenant, finalement, la base de cette langue-là, la langue des signes québécoise, en 30 heures. Donc, l'ensemble du contenu qui va être présenté dans les 30 heures, parce que c'est 30 heures, mais qui est présenté en 20 séances, hein, en classe virtuelle de 1h30. Ça va être des thèmes vraiment de base, donc évidemment l'alphabet, les chiffres et tout ça, mais surtout du vocabulaire relié au monde de l'emploi.
Donc, bière, 5 à 7, congé.
Ça fait pas... Ben oui, congé, effectivement. C'est moins bière. Mais on verra pas, par exemple, les animaux.
Oui, OK.
Ça sera pas pertinent. Donc, l'ensemble du vocabulaire, ça va être des choses comme les fériés, le calendrier, les quantités, ouais. Les répétitions.
Très important, les fériés.
C'est ça, oui, aussi.
Laurie, lorsque je regarde, bon, il y a tellement de possibilités d'entreprises. Il y a des noms, parfois des items très techniques, dépendamment si je suis en ingénierie, en programmation informatique. Est-ce que vous adaptez la formation selon le type d'emploi?
Oui, tout à fait.
Et combien de temps d'avance je dois vous dire pour que vous adaptiez les ateliers, les heures de cours?
Présentement, il n'y a pas de durée fixe. Il y a deux cohortes pour le moment qui démarrent par année. Donc, elles sont complètes présentement. Okay. Selon la demande, on est prêt à réévaluer là, la possibilité de créer d'autres groupes. Puis à ce moment-là, tous les besoins de l'entreprise vont être pris en compte. S'il y a des trucs plus spécifiques, des mots qui n'existent pas en LSQ, il y a aussi possibilité d'inventer des mots. Donc, tout ça est possible.
C'est un prix fixe ou on paie au nombre de participants? Comment ça fonctionne? Parce qu'il faut que quelqu'un défraie ça, là.
C'est un prix fixe.
OK. Donc, plus il y a de monde, moins ça coûte cher par tête de pipe, malgré que probablement que c'est l'entreprise qui va payer.
Oui, c'est ça. D'habitude, c'est l'entreprise qui paye.
OK.
Le groupe va partir s'il y a un minimum de participants. Puis tout ça est restreint un peu par rapport à la possibilité, là, la quantité de webcam. Donc, parce que tout ça se passe en classe virtuelle, ouais. Pour justement amener une meilleure flexibilité pour les entreprises là, au niveau de l'inscription de leurs participants.
Bon, permets-moi d'envoyer un pavé dans la mare. Il y a plein de familles qui ont des enfants sourds qui n'apprennent pas la LSQ, même si l'enfant s'en sert. Pourquoi une entreprise qui a un employé qui risque d'être soit mise à pied pour contrainte, qui risque d'être congédié, tu sais, qui risque de ne pas rester longtemps, voudrait investir pour avoir un meilleur rapport avec celui-ci?
Pour les entreprises, dans la situation dont vous me parlez, je ne sais pas. Mais pour les entreprises pour lesquelles je l'ai développé, c'est parce qu'eux ont comme mission, les entreprises adaptées, de créer de l'emploi à ces gens-là puis de les maintenir en emploi.
Okay.
Donc, eux ont vraiment l'intention, l'intérêt, le désir de les maintenir en emploi. Il y en a pour qui ont des travailleurs dans leur équipe, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, qui sont sourds, mais qui n'avaient pas pris le temps ou découvert. Ils n'avaient peut-être pas eu la formation adaptée à leurs besoins. Donc, en proposant ce produit-là, effectivement, on l'a comblé nos groupes très rapidement.
Ouais. Mais ça pourrait être intéressant aussi, je ne sais plus exactement si c'est à Lachenaie, Saint-Eustache, mais en tout cas, je sais qu'il y a un propriétaire de Mike's qui est sourd sur la Couronne-Nord. Puis ça pourrait être intéressant, lui, de dire, je veux que vous compreniez mon univers, alors moi, je vous paie. Oui, c'est pour rentrer en contact avec moi, mais c'est aussi pour vous sensibiliser. Il y a plein de raisons pourquoi on voudrait s'inscrire à un programme comme celui-là.
Oui, puis démontrer de l'ouverture, puis le désir d'inclusion de ces gens-là qui sont comme nous, finalement, puis qui, dans leur vie, ont toujours à eux faire l'effort d'adaptation. Donc, que l'inverse se fasse avec des produits comme ça, c'est fantastique, finalement.
Il y a combien de professeurs?
Il y a une seule professeure.
C'est vous?
Puis,
non, c'est pas vous.
Elle se nomme Gisèle Gauthier, puis d'ailleurs, elle est sourde.
OK.
Donc, on a une professeure sourde. Tout ça se fait dans le silence. Dans les premiers cours, finalement, il y a une interprète qui va être présente à distance, qui va être connectée, qui va intervenir au besoin. Mais honnêtement, tout ça se fait dans le silence, à l'aide d'un guide. Ils ont un guide à l'écran qui vont suivre et ils vont apprendre de cette façon-là la base. Là, puis au fur et à mesure, ils ont des examens à faire. Donc, chaque semaine, ça dure une heure et demie. Donc, à chaque semaine, ils se retrouvent à tous les mardis présentement.
Okay.
Ils ont un petit devoir à faire pour se mettre en pratique pendant la semaine. Puis, c'est ça. C'est tout le temps à peu près le même fonctionnement. Donc, ça se fait assez bien malgré justement cette limite-là qui est présente au début.
Mm-hmm.
Mais c'est comme si on apprenait une autre langue.
Bien sûr. J'ai pris un cours d'espagnol. Puis
c'est une immersion.
C'est comme ça. Ben oui. On parle de ce nouveau programme de formation pour aider les entreprises à mieux accueillir les employés sourds avec Laurie Morel, qui est coordonnatrice du programme. Est-ce que c'est une idée, disons, personnelle ou vraiment c'est le CQA qui vous a approché en disant « on a besoin de ça »
En fait, ça fait partie de mes responsabilités d'identifier les besoins de formation. Ça faisait un petit moment que mes clients, le mentionnait. De plus en plus, je voyais des gens qui suivaient les traditionnelles formations LSQ 1, 2, 3. Mm-hmm. Donc, il y avait un besoin. Puis, on l'a réfléchi à l'aide, de la fondation du Centre Signe d'espoir à Québec, qui elle-même a une entreprise adaptée qui embauche principalement des personnes sourdes.
Oui. Et un centre dentaire pas trop loin, accessible. On a appris ça plutôt à l'émission.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Selon Kim Auclair.
Oui, vous avez raison.
Laurie, est-ce que... Bon, ça coûte-tu les yeux de la tête? C'est-tu raisonnable? Ça coûte combien pour un 30 heures?
Pour un 30 heures, c'est 275.
Indépendamment du nombre de participants?
Moi, j'ai toujours un tarif minimum. Nombre de participants minimum, mais c'est 275.
Mais c'est-tu 275 par participant ou au total?
Oui, par participant.
OK. Je trouvais que c'était...
C'est toujours par participant. Non.
Je comprends.
Il y a possibilité de faire des groupes exclusifs. Il y aurait possibilité de faire des offres pour des groupes exclusifs, en fait, faire des prix. Mais pour l'instant... On s'en tient à un tarif de 275 pour les gens qui sont non-membres du CQA.
On aime ça. Merci beaucoup d'avoir été là.
Ça fait plaisir.
Laurie Morel, qui est coordonnatrice de ce nouveau programme. Moi, je vous dis, vous avez jusqu'au 30 novembre, si vous êtes de Montréal, n'oubliez pas la consultation publique, soit par téléphone, sur le web. Moi, j'y vais cet après-midi pour ceux qui nous écoutent en direct. Il y en a une autre demain pour le public. Jean-Sébastien, Catherine, merci beaucoup. À vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous au balado. On ne sait jamais. Vous allez être contents.